Vous écoutez
RMC.
Sur le match Espagne-Belgique qui vient de se terminer, qualification des Espagnols demain. L'Espagne affrontera donc la France mardi prochain, 14 juillet. On va en parler longuement.
Tout est écrit
ce soir.
Cette Coupe du Monde.
Exceptionnel.
C'est un livre ouvert.
Tu veux dire France-Espagne à 14 juillet?
France-Espagne, la demi-finale, on a l'impression qu'on en parle depuis le premier jour.
Ouais, et
hop,
c'est là.
C'est de l'autre côté où c'était plus indécis.
Bah, si on a...
J'avoue que j'aimerais bien avoir une Argentine-Angleterre,
le rêve.
Argentine-Angleterre.
Le rêve.
Là, si ça, on va convoquer l'histoire.
Franchement,
si c'est Norvège-Suisse, c'est moins sexy, on va pas se mentir.
Sûr. Et si ça avait pu être.
On va pas se mentir,
si ça avait pu être au Mexique, au stade Aztec. Pour le remake.
Ah, tu veux Messi qui marque de la main, c'est ça que tu veux?
J'ai envie de voir l'Angleterre aller loin pour voir un peu jusqu'où ce qu'ils ont en eux, quoi.
Si bah là, s'ils battent l'Argentine.
Non, d'abord, laisse-les battre la Norvège.
Oui, non, mais
et après, la demi-finale historique, on l'aura. Parce que là, si t'as un tableau France-Espagne, Angleterre-Argentine, permets-moi de dire que ça a de l'allure.
Ouais, c'est...
Je pense que Daniel va finir par nous dire que sa Coupe du Monde a commencé. Tu vois, avec
non,
le tableau
ça, non, mais ça sert à rien d'être ironique. Ça sert à rien d'être ironique parce que depuis que j'ai dit. On devait être au troisième match des 16e, on est encore à New York. Là, ça y est, c'est sérieux. En fait, vous savez tous que c'est vrai ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, Kevin est d'accord avec moi. C'est toute cette formule, le troisième qui se qualifie et tout, ça a dilué. Et ça ne fait qu'une chose, contrairement à ce que vous disiez, genre vos espèces de belles paroles pour les petits et tout. En fait, ouais, ça protège les gros. Ça protège les gros. Oui, t'aurais jamais dû me lancer là-dessus. Ça protège les gros. C'est comme les têtes de série au tennis. Ça protège les gros.
À savoir que. Les 90% des meilleurs troisièmes ont été éliminés au 16e et juste il restait juste le Paraguay qui est sorti piteusement contre la France en 8e. Donc les meilleurs troisièmes pouvaient rester chez eux.
Ça servait à rien du tout.
Les meilleurs troisièmes pouvaient rester chez eux.
La qualification du Paraguay n'a servi qu'à une chose funeste, faire connaître la sénatrice.
Ouais,
voilà quoi,
c'est celle-là, on aurait vraiment pu s'en passer en plus.
voilà.
Bon, on va analyser ce match. Il y aura l'équipe de France également tout à l'heure en débat, l'actu du jour. Et puis ce débat qui agite pas mal d'émissions d'RMC depuis quelques heures maintenant. Walid Acharchour s'est positionné déjà la nuit dernière, très tard. Mbappé est-il déjà le plus grand joueur français de l'histoire?
Je crois que c'est pas exactement ça qu'il a dit.
Est-ce qu'il est déjà à la table?
Voilà.
Mais de l'histoire, oui, je parle de l'équipe de France, évidemment. Je parle pas de l'histoire.
Non.
Je parle pas de l'histoire du football.
Non,
je parle de l'histoire des Bleus.
Qu'il était à la table de Platini et Zidane en bleu.
Ouais, je parlais des Bleus, moi aussi.
Ouais. Ouais. Bah, je vois pas en quoi c'est.
Bon, on débattra tout à l'heure.
Oui, enfin, si tu veux.
Mais... sans oublier le reste de l'actu lié à la Coupe du Monde et au monde du football. Et puis en fin d'after, on verra si le délire bandeau tresse de Daniel est vrai. On aura avec nous.
Ah, ça y est, enfin.
On a réussi à avoir un coiffeur.
Enfin.
On aura avec nous un coiffeur de star.
Et pas n'importe qui. Hein,
c'est-à-dire mon coiffeur, bien sûr.
C'est pas le biggin au coin de la rue. Hein.
C'est le coiffeur de Neymar?
C'est du lourd.
Ouais.
C'est du très très lourd. Ouais. Et j'ai passé la journée à étudier les coupes de cheveux des amis hollandais notamment.
On a demandé à Samuel Umtiti s'il a réussi à avoir
Koundé. Et Samuel, rien du tout, il passait son pote, alors il dit qu'il n'y a pas de problème.
32-16, on vous attend. On vous attend également sur le numéro WhatsApp de l'After.
Là, Samuel, on a rigolé.
06-12-424-424. N'hésitez pas à nous appeler, bien sûr, à nous écrire. Bon, on a vu un match sympa quand même ce soir, Espagne-Belgique.
On a vu une équipe contre...
Bah, je sais pas si c'est
hier soir Kevin croyait à la surprise belge.
Moi c'est pas ça que j'appelle un match sympa. Le match sympa pour moi c'est Mexique-Angleterre, c'est ce genre, c'est le Norvège-Brésil de l'autre jour. C'est quand tu as deux équipes qui essayent de faire quelque chose. Le match sympa, c'est pas quand une équipe joue et quand l'autre n'est là que pour attendre, bétonner le cul dans la surface. Et c'est souvent le cas des équipes qui jouent l'Espagne. Je pense que la France fera exception mardi soir, mais on n'en est pas là. Donc match agréable, évidemment, parce que quart de finale et donc la tension qui va avec.
Merci.
Parce que l'exploit est toujours possible et ça aurait été effectivement retentissant si l'Espagne était tombée. Et dans ce genre de match un peu traquenard, on sait que parfois ça peut arriver. Fort heureusement, ça n'arrive pas souvent parce que je crois que les gens qui écoutent l'After depuis longtemps savent que je ne supporte pas ce genre de scénario. Quand une équipe ne veut absolument rien faire sur le terrain, je suis désolé. Quand c'est une petite équipe, je peux l'accepter. Quand c'est une équipe qui a autant de bons joueurs dans son équipe et qui peut proposer autre chose, parce que dans les 5 dernières minutes, quand ils ont pris le but des réveils en douceur, là, des réveils en beauté, là, Merino, là, d'un coup, ils se sont mis à bouger, ils se sont mis à attaquer et ils ont même été dangereux. Donc bon, tu vois, au bout d'un moment, ok, vous avez voulu faire cette tactique-là, vous vous êtes dit, c'est le seul truc à faire contre l'Espagne, sinon on va se faire ouvrir. Eh ben, très bien, vous avez pris le but de Merino à la dernière minute. Au revoir tout le monde. Merci les Belges. Au revoir.
Edgar Grolot nous rejoint, il suit le foot espagnol toute l'année bien sûr, il est à Madrid d'habitude mais là il est parti aux États-Unis pour la Coupe du Monde. Edgar, bonsoir.
Salut Gilbert, salut tout le monde.
T'es à Los Angeles, Heidi?
Non, moi-même, j'ai fait mon dernier Mexique, match, toi. Donc là, je suis rentré, là.
Ah, t'es rentré?
Ouais, je suis rentré.
Ah, on n'est pas informé. Donc t'es à Madrid, là.
Ouais, tu nous as pas envoyé ton itinéraire, hein.
Bah, là, je vais arriver au bon moment, à Madrid, là. Pour suivre.
Exact.
C'est Espagne.
Pas bien joué.
1h30.
Bien joué.
Bravo.
Bon, évidemment, tu débats avec nous. Le 32-16 également est ouvert, supporter du foot espagnol. Kevin, toi, ton analyse globale de la rencontre.
Bah, mon analyse, c'est que je pensais que les Belges pouvaient embêter les Espagnols, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait, alors avec leurs armes ou pas leurs armes, ou en tout cas avec le plan de jeu qui a été décidé par Rudy Garcia, qui est un plan de jeu totalement différent de ce qu'avait la Belgique, notamment en 2018, où c'était une équipe qui jouait un peu à l'espagnol avec beaucoup de maîtrise. Avec
la Belgique de 2018
avec beaucoup plus de talent, mais avec aussi beaucoup plus de maîtrise, une équipe qui avait la possession et qui s'est d'ailleurs fait crever par l'équipe de France sur un corner, alors que l'équipe de France a été plutôt dominée dans ce match. Je vais pas dire que c'était un hold-up non plus, mais en tout cas, les Belges avaient été, sur le plan du football et de la production, je pense, meilleurs, mais les Français avaient été plus efficaces. Là, aujourd'hui, c'est quand même un match différent. C'est un match où l'Espagne retrouve un très bon niveau, où on a Lamine Yamal qui retrouve un très bon niveau, même si on voit que...
Il manque encore 2-3 contrôles. Il manque 2-3 choses un peu ratées. Bah,
il a failli faire Messi. Tu vois, là, dans les 10 dernières minutes, la passe par-dessus, où lui, il rate ce contrôle très difficile réussi par Messi. C'était contre le Cap-Vert, je crois, le contrôle incroyable là, et l'enchaînement derrière exceptionnel de Léo Messi. Lamine Yamal, on voit qu'il retrouve quand même des jambes, et puis il y a quand même une équipe qui est sûre de ses forces.
Il y a du banc parce que ça fait deux fois que Merino rentre et fait la diff.
Très bon joueur Merino.
On a revu Nico Williams, je pense qu'il est loin d'être au top, mais il commence à rentrer dans les matchs. Je ne sais pas s'il peut démarrer.
On a revu un Fabien Ruiz moyen, mais décisif.
Il est loin quand même, Nico Williams.
Oui, je pense qu'il est loin.
Fabien Ruiz moyen, mais
quand
décisif.
Quand tu relais Merino, Yarzabal, quand tu fais tourner, même Ferran Torres, parfois maladroit et tout, mais ça percute quand même à chaque fois. Ça vient provoquer, ça vient essayer de faire des 1-2. Ça essaye de jouer. Toujours, ça met du ballon. Le contact avec le ballon, c'est quand même très agréable à regarder. Les Espagnols, c'est du vrai football, quoi. Là, en face, c'était genre, on bétonne. Doku, T'es où Jérémy? Et hop là, vas-y, si tu veux nous faire un sprint de 80 mètres en éliminant 5 joueurs et en mettant une frappe lucarne, voilà, c'est ça le projet de jeu des Belges, quoi. Bon, alors ok, je veux bien. Tillemans s'est blessé à l'échauffement. Gros coup dur. Mais je suis pas sûr qu'ils auraient joué autrement.
Non, ils n'auraient pas joué autrement, parce que c'est un petit peu à l'image de ce qu'on a dit hier pour l'équipe de France. L'Espagne maîtrise tellement son sujet, c'est un sujet différent de l'équipe de France, mais l'Espagne maîtrise tellement son sujet de cette possession, parce que si l'Espagne n'a pris qu'un seul but dans cette compétition, et donc ce soir sur un contre et un beau centre et une belle tête, si on se rappelle bien de l'Espagne d'Iniesta et de Xavi, c'est des équipes qui gagnaient aussi de très peu d'écart, souvent 1-0.
La Coupe du Monde 2010, tout 1-0.
Ouais, et qui ne prenaient pas de but parce qu'ils avaient une forme de possession qui était au moins offensive que défensive, et donc un peu à l'image de ce que réclamait Johan Cruyff, en gros ils gardaient la balle parce qu'ils disaient que quand t'as le ballon, bah ton adversaire peut pas te marquer un but, et donc cette possession qui est aussi défensive et qui fait courir l'adversaire et qui épuise l'adversaire, bah c'est eux qui la maîtrisent le mieux. Et moi, je vais pas me cacher, moi je voulais absolument que l'Espagne gagne ce match, parce qu'au fond je veux voir le match-up entre les deux meilleures équipes des 3-4 dernières années. La France était moins bonne il y a 2 ans dans le jeu, elle avait peut-être moins de talent, mais là cette année, France-Espagne, c'est la finale avant l'heure, et on l'aura en demi, et tant mieux.
Je pense que les Français vont aborder ça.
Il y avait quand même quelques coups à jouer pour la Belgique, hein.
Oui, vas-y, le gars.
Je veux dire, il y a quelques situations où si la Belgique, je suis d'accord avec vous, ils ont très mal joué dès qu'ils avaient le ballon et dès qu'ils avaient des opportunités. Il y en a eu pas mal qui ont été mal joués, un peu balancés.
Les Belges, ils ont même pas 0-2 d'expected.
Non, mais il y a des actions. Il y a des actions où tu sens que si tu joues un peu mieux le coup, que t'as une idée offensive un petit peu plus intéressante,
de jouer ou de coup, enfin voilà.
C'est 68% de ces 30 derniers mètres pour l'Espagne. C'est le double de passes pour les Espagnols. C'est uniquement 244 passes réussies pour la Belgique. C'est 13 occasions à 2.
Tu t'es fait juste nettoyer, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout, quoi. Au bout d'un moment, au revoir, quoi. C'est pas possible.
Après, sur le, sur, sur l'Espagne, moi je trouve qu'ils ont très très bien commencé leur match et que jusqu'à l'égalisation de la Belgique, c'était sûrement la meilleure période et la meilleure phase d'un match de l'Espagne depuis le début de la Coupe du Monde. Et après, j'ai trouvé ça un petit peu moins bon. Je sais pas si vous avez eu la même impression.
Oui, non, mais c'est un peu moins bon aussi parce que la
toujours mieux dans tous les duels avec un temps d'avance, etc. Au niveau d'intensité,
tu tournes en rond. Exactement. Parce que tu trouves plus vraiment la solution. Les autres, t'es vraiment à l'arrache sur tous les gestes défensifs. Ils se sont remarquablement bien battus, tu me diras. Mais oui, après, tu rentres dans une espèce de à quel moment ça va passer, quoi. T'es là dans l'attente. Bon, bah, ça a craqué à la fin, comme les Portugais. Pareil, le Portugal, l'autre fois, c'est la même chose. Avec les joueurs que vous avez, avec les talents que vous avez, mais proposez-moi un autre football.
Les Portugais, ils ont fait un peu plus que les Belges, quand même.
Bah, ils ont quand même quelques joueurs bien supérieurs aux Belges aussi. Ouais. Donc c'était un petit peu normal.
Le Portugal, un peu à l'image de ce qui s'est passé ce soir avec Thibaut Courtois et sa blessure et sa sortie, j'aurais bien aimé voir le reste du match.
Il a bien plombé les Belges d'ailleurs, parce que vu ce qu'a fait le remplaçant.
Ah oui, Lamens, il les a tués là-dessus. Mais Nuno Mendes, s'il sort pas, c'est peut-être un autre match et le Portugal, ils peuvent en mettre un.
Bon, dans un instant, on va écouter Rudy Garcia.
À force de défendre, tu craques. Soit tu te blesses, soit tu fais une
erreur.
Supporter
belge, on vous attend. 32-16.
Quand tu fais que ça.
Supporter espagnol, on vous attend. 32-16. On continue l'analyse de ce match. On va faire une évaluation parce qu'évidemment, on veut tout savoir de Espagne avec Edgar qui joue la France donc dans maintenant 5 jours, oui, samedi, dimanche, lundi, mardi, 4 jours.